Le H2O Show avec Franco Huard.
Alors, nous sommes de retour de la pause sur les ondes de Radio H2O pour le H2O Show. Et j'ai avec moi aujourd'hui Daniel Latulippe. Salut Daniel.
Salut Franco.
En forme?
Ah, toujours, toujours.
Parfait. Et nous avons aussi aujourd'hui Jean-Martin Rossin, qui est le fondateur et chef du parti Option Nationale. Il est le candidat sortant dans Nicolet Bécancour. Hier matin, il a déposé une requête en injonction dans le but de participer au débat des chefs. Bon matin, M. Hossan.
Bonjour, bonjour.
M. Hossan, le juge a pris la cause en délibéré hier matin. Croyez-vous que vous obtiendrez gain de cause?
On l'espère parce que la loi électorale est très claire à cet égard-là. Ça dit que tous les partis représentés au Parlement, donc s'il n'y a aucune autre mention de niveau dans les sondages, d'âge du parti, de nombre de députés, ça dit que si on est représenté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'Option nationale est inclus là-dedans, ça donne le droit d'avoir une couverture similaire de la part des diffuseurs, câbleaux, distributeurs et imprimeurs, évidemment pour pas que les médias puissent avantager une formation politique au-delà des autres. Et donc, l'esprit de la loi voudrait qu'on soit au débat des chefs et on espère que le juge va se rendre aux mêmes conclusions.
Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, je crois même que votre parti politique maintenant représente 2% des intentions de vote.
Dans les sondages, ça varie entre 2-4%, puis ça, c'est déjà très bien parce qu'on a 8 mois d'existence. Faut pas oublier qu'on existe depuis quelques mois seulement. Oui. Et malgré ça, on a 123 candidats au Québec, ce qui est un record de vitesse pour un si jeune parti d'avoir autant de candidats. On en est très fiers. Et il faut souligner que c'est pas un caprice qu'on demande là. On demande simplement que la loi électorale soit appliquée dans sa lettre et dans son esprit. Et l'esprit de la loi, c'est de faire en sorte que personne soit désavantagé. Et donc, on veut faire valoir ce droit-là.
Absolument.
Effectivement. Et la question qui me vient par après, c'est pourquoi avoir fondé Option Nationale?
Bien, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un manque d'un parti souverainiste clair au Québec. Parce que vous savez, la dernière fois qu'on a demandé aux Québécois s'ils voulaient d'un pays au lieu d'une province, il y en a la moitié qui ont dit oui. Et dans le contexte actuel, si on n'avait pas un parti comme Option Nationale, vous auriez deux options pour le non, avec le Parti libéral et le parti de la CAQ de François Legault, et vous auriez deux options pour le peut-être, avec Québec solidaire et le Parti québécois. Mm-hmm. Donc, il manquait clairement une option qui dise oui, qui dise comment on y arriverait, et qui dise clairement que si on est élu, on va enclencher ce qu'il faut pour que le projet de souveraineté avance et que le Québec devienne un pays.
Et selon vous, la population est-elle plus favorable à une séparation du Canada qu'elle ne l'était en 1995?
Mais en fait, quand on regarde les sondages, ça tourne toujours aux alentours de 40% de gens qui disent oui, et il y a à peu près 30-40% de gens qui disent non. Donc, il y a de 20-30% de gens qui sont plutôt indécis et qui sont peut-être plus facilement, rejoignables par un camp ou l'autre. Et c'est aux leaders souverainistes et aux leaders fédéralistes d'avoir les meilleurs arguments possibles pour aller chercher ces gens-là et convaincre même les autres qui sont déjà identifiés à un des deux camps. Mais c'est certainement pas en disant aux gens « élisez-nous de toute façon et on verra ensuite si c'est opportun de faire un pays » qu'on va emballer ceux qui sont pas déjà emballés par ce projet-là. Il faut montrer un peu plus d'enthousiasme que ça. Et c'est Option nationale qui remplit ce rôle-là maintenant.
Oui, effectivement. Monsieur Hossan, on entend beaucoup parler du vote stratégique. Puis personnellement, je crois que c'est une mauvaise option que de voter stratégiquement, qu'on devrait toujours voter avec ses convictions puis avec son cœur. Pauline Marois a récemment déclaré, a fait des déclarations récemment envers les fédéralistes concernant le vote stratégique. Vous pensez quoi de cette option?
Ben justement, moi je pense qu'en démocratie, ce qui serait normal, c'est de toujours voter avec son cœur, ses convictions et voter pour ce qui est le plus proche de nos valeurs. Il faudrait pas se retrouver dans un système où on est forcé de voter pour ce qu'on pense qui est moins mauvais que ce qu'on déteste. C'est un peu ça le vote stratégique. Et en fait, ce qui nous empêche de voter avec notre cœur et avec nos valeurs, c'est qu'on n'a pas de proportionnalité dans le mode d'allocation des sièges au Québec. C'est un vieux système britannique qu'on a. Il faudrait s'en sortir et comme par hasard, les deux partis qui alternent au pouvoir depuis 42 ans au Québec, soit les libéraux et les péquistes, ils veulent pas qu'on ajoute de la proportionnalité parce que même si ce serait bon sur le plan démocratique, ça leur enlèverait leur monopole sur la politique québécoise. Et quand ils pensent davantage au parti qu'à l'intérêt collectif, c'est là que je me dis qu'ils ont quand même perdu un peu l'essence de ce que c'est que d'être un parti politique qui pense à la collectivité d'abord. Donc, il faut surtout pas s'enfermer dans cette menace-là du vote stratégique et surtout pas en votant pour des partis qui veulent pas instaurer la proportionnelle en plus. Donc, évidemment qu'ils ont tout à gagner à faire peur aux gens en disant « si vous votez pas pour nous, ça va être l'autre ». Mais quand on en est rendu à faire peur à un électeur pour avoir son vote, c'est parce qu'on n'a plus grand-chose à proposer, selon moi.
Oui. Now, if you don't mind, Mr. Hossan, I'd like to ask you about the Anglophones. I work with a good number of Anglophones, and in our political discussions, it turns out that they are a little bit worried. If your party is elected with a sovereignty platform, some of them are afraid of what would happen to them should Quebec become a sovereign state. What can you tell them to motivate them, to bring them into the fold, and to convince them that they have a part to play in your ambitious plan?
Well, I believe all Quebecers will benefit from a more prosperous Quebec, whatever their language is. And there's a clear distinction to be made between the historical English community in Quebec and the new arrivals. People coming from immigration should adopt French when they come to Quebec because it's the language of the vast majority and it is the official and common language in Quebec. But all the historical community of English descent has very clear rights right now, and they would have the same rights in a sovereign Quebec, in a sovereign state, which means that they could bring their kids to English schooling. They could do business in English if their client base is only English from the historical community as well. And Bill 101 already protects those rights from people coming from the historical English community. The difference is that people who come from Quebec from somewhere else in the world, they should adopt French as their modern common language.
OK, thank you. Parlant de votre plateforme, d'abord, vous proposez de nationaliser les ressources. On parle de quelles ressources ici et est-ce que ça inclut l'eau?
En fait, toutes les ressources naturelles, le principe part du fait que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Et oui. Donc, ça inclut toutes les ressources naturelles, l'eau évidemment, et éventuellement l'éolien si on développe cette filière-là. Et la simple et bonne explication de ça, c'est que le système actuel fait l'hypothèse que quelqu'un qui trouve un gisement de quelque minerai que ce soit en est le propriétaire, puisque c'est lui qui fait tous les profits avec ça. Et c'est là que c'est pas normal. Le secteur privé devrait être récompensé et rémunéré pour son travail, pour son innovation, pour la machinerie qu'il invente pour nous aider à exploiter ça. Ça, c'est sûr qu'il faut les payer pour ça, et très bien s'il le faut. Mais là où il faut pas avoir une attitude de secteur privé, c'est le profit qui découle de la propriété de ces ressources-là devrait aller aux propriétaires réels que sont la population du Québec, en fait. Qu'est la population du Québec. Et c'est là qu'il faut revoir le système et faire un peu comme ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, en fait. Une nationalisation, c'est pas du communisme du tout, c'est de faire en sorte que l'État soit maître d'œuvre du développement et qu'il décide de quels projets vont aller de l'avant et de la répartition des richesses qui découlera de ces projets-là. Mais on aura toujours besoin du secteur privé pour collaborer là-dedans. Et malgré ce que les gens en disent du secteur privé, là, le secteur privé va pas quitter le Québec si on nationalise nos ressources. Quand on l'a fait avec Hydro-Québec à l'époque, René Lévesque a eu le courage de se tenir debout devant ces gens-là. Et il n'y a personne qui a fui le Québec. Il n'y a pas eu d'exode de capitaux. Il n'y a pas eu de mauvaise réputation à l'international du Québec. Il faut simplement se tenir debout et rémunérer le secteur privé pour le travail qu'il fait, mais pas pour la propriété des ressources qui, elles, nous appartiennent en tant que Québécois.
Et parlant des ressources, justement, M. Hassan, la loi sur les mines est d'âge de plus de 130 ans. Et depuis 2009, en fait, le projet de loi numéro 79 veut la modifier, mais ça prend beaucoup de temps. Est-ce que cette loi sera une de vos priorités si votre parti est au pouvoir?
En fait, ça pourrait s'inscrire dans le cadre d'une nationalisation parce que ça changerait beaucoup de choses à l'égard de la loi sur les mines, évidemment. Ce qu'il faut annuler le plus vite au Québec, c'est cette espèce de principe de free mining qu'on appelle, oui. Qui veut dire que oui. Des compagnies, en bout de ligne, quand les choses vont mal, ont le droit d'exproprier des citoyens pour aller chercher ce qui est en dessous de leur maison. Mm-hmm. Ça, c'est absolument insensé. Puis cette loi qui date du 19e siècle, comme vous le disiez, oui. Date d'une époque coloniale, puis il faut sortir de ce système-là. Mm-hmm. En fait, au Québec, il faut redevenir maître de nos ressources naturelles qui nous appartiennent. Et le ridicule de la situation, c'est que le gouvernement actuel n'ose pas créer une société d'État pour gérer tout ça parce qu'il dit que l'État n'a rien à faire là-dedans, mais il laisse des sociétés d'État d'autres pays venir chercher nos ressources. Donc, si on laisse des sociétés étatiques chinoises, par exemple, venir exploiter nos ressources et faire de l'argent avec ça, on devrait être aussi cohérent dans nos positions et faire nous-mêmes en sorte qu'il y ait une société d'État qui s'enrichisse avec ça ici.
Oui, effectivement. Je pense qu'un des points qui est important aussi à apporter là-dedans, c'est quand que M. Charest dit que le Japon est un allié naturel pour l'exploitation de notre plan Nord. Selon moi, c'est totalement absurde parce que justement, ça devrait être nous, les Québécois, qui sont les alliés naturels pour nos ressources aussi. Là.
Ben en fait, quand il parle d'allié naturel, parce que c'est ce qu'il veut dire, j'imagine, c'est que le Japon n'a pas de ressources, nous on en a, donc il est un allié naturel. Sauf que si c'est ça la réalité, que les Japonais ont besoin de nos ressources, c'est nous qui devrions faire l'argent en leur vendant nos ressources.
Exactement.
Ce sont les compagnies étrangères qui devraient venir faire les profits ici, oui. Pour donner les ressources à ceux qui n'en ont pas. Ces ressources-là nous appartiennent, il faut simplement redevenir maître de ces ressources-là. Et c'est là que je pense qu'Option nationale a une vision sur la chose qui se distingue des autres partis qui se sont enfermés dans un débat sur les redevances. Donc, au lieu de se dire « réapproprions-nous nos ressources et payons le secteur privé pour le travail qu'il fait. Le débat actuellement, c'est combien oserons-nous prendre dans le profit des privés? C'est pas comme ça qu'on devrait s'affirmer en tant que leader politique. On devrait faire en sorte que les Québécois redeviennent maîtres de leurs ressources naturelles en collaboration avec le secteur privé.
Oui. Au point 2.8 de votre programme, on peut lire qu'Option nationale créerait la Banque du Québec. Est-ce que cette banque serait totalement indépendante ou serait-elle associée de près ou de loin à la Banque du Canada ou la Bank of International Settlements en Suisse? Est-ce que ça serait une banque centrale?
Ce serait une banque de davantage d'investissement qu'une banque centrale, c'est-à-dire qu'on regrouperait actuellement, il y a plusieurs guichets pour des entrepreneurs qui veulent fonder une entreprise ou qui veulent la faire croître ou qui veulent ouvrir des marchés de l'exportation ou qui veulent, par exemple, céder leur entreprise à quelqu'un dans la famille ou à d'autres intérêts. Donc, actuellement, il y a trop de guichets pour ça et il y a beaucoup de paperasse aussi. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on créerait cette Banque du Québec qui regrouperait Investissement Québec, qui regrouperait aussi les CLD, les SADC, les SDE. Donc, il y a plusieurs organismes actuels qui pourraient être regroupés en un guichet unique qui aurait des antennes dans toutes les régions du Québec pour tous les types de développement régionaux aussi et qui serait beaucoup plus efficace dans le développement de notre économie. Donc, ce serait en ce sens-là, ce ne serait pas une banque centrale qui, par exemple, imprime de l'argent ou fixe les taux d'intérêt. Ce serait une banque d'investissement pour le Québec pour améliorer le développement économique ici.
Et donc, vous avez régulièrement mentionné que le Québec souverain pourrait choisir n'importe quelle monnaie du monde au lieu du dollar canadien. Une fois les ressources nationalisées, tant qu'à être indépendant, pourquoi pas plutôt avoir un dollar québécois basé sur un panier de ressources?
C'est absolument pas exclu. On aurait toutes les options à notre disposition. Disons, dans le court terme, ce qui serait le plus simple, par contre, c'est de continuer à utiliser le dollar canadien puisque notre économie est déjà libellée dans cette devise-là et que c'est la façon de fonctionner de tout le monde. Donc, dans le très court terme, ça pourrait être une chose plus simple que de conserver le dollar canadien. Mais par la suite, le Québec pourrait très bien choisir d'utiliser le dollar américain, garder le dollar canadien, prendre l'euro, prendre le yen même, ou se créer sa propre monnaie. Toutes les options seraient disponibles. Et là où les fédéralistes essaient de faire peur aux gens, c'est quand ils disent que le Canada voudrait pas qu'on continue à utiliser le dollar canadien. Et ça, c'est totalement faux, parce que s'il fallait qu'on se départisse de la devise canadienne, il faudrait donc qu'on la vende sur les marchés internationaux pour acheter une autre devise ou créer une devise. Et si on mettait tous les dollars canadiens qu'on possède en vente tout d'un coup, c'est presque le quart de la masse monétaire canadienne qui serait en vente et ce serait un choc terrible pour l'économie canadienne. Donc, en fait, le Canada souhaiterait qu'on veuille conserver le dollar canadien au moins dans le court terme parce que sinon, ce serait beaucoup plus douloureux pour eux que pour nous de nous forcer à utiliser une autre monnaie.
Oui, effectivement. Et de toute façon, de cette manière-là, on serait quand même en relation avec la Banque du Canada. Donc, au Québec, on pourrait quand même avoir, qu'on pourrait dire, deux banques, donc la Banque du Québec et la Banque du Canada.
Ben en fait, là où la question se dirige souvent, c'est oui, mais si on prend le dollar canadien, le Canada déterminerait des taux d'intérêt de notre monnaie, ce qui est déjà le cas. Donc, en tant que Québec, province du Canada, on n'a jamais eu d'influence sur la politique monétaire parce que ça a toujours été le poumon économique qui était l'Ontario à l'époque et maintenant, de plus en plus, ça se déplace vers l'Ouest, le pouvoir économique. Donc, ça a toujours été ça a toujours été ailleurs qu'au Québec que la politique monétaire canadienne se décidait et s'était imposée au Québec par la suite. Donc, le Québec, en tant que pays, même s'il utilisait le dollar canadien, ne perdrait rien sur ce plan-là parce qu'on n'a déjà aucun contrôle sur la Banque du Canada, sauf qu'on aurait la liberté par la suite de garder cette devise-là, d'en adopter une autre ou d'en créer une qui soit propre au Québec. On aurait toutes les options sur la table.
OK, parfait. Et dans une autre entrevue, vous avez déclaré qu'après le vote pour le projet de loi 78, des députés libéraux vous ont dit en privé qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'ils ont dû suivre la ligne du parti. Puisqu'une des fonctions de représentant est justement de représenter son comté, croyez-vous qu'il a le luxe de voter selon ses positions ou sinon devrait-il toujours suivre la ligne du parti?
En fait, l'élément sur lequel les députés libéraux m'avaient dit ça, c'était sur le vote pour le rapport d'impôt unique. Parce que j'avais suggéré au Parlement une motion pour qu'on ait un seul rapport d'impôt plutôt que deux, parce qu'on est les seuls au Canada à avoir deux rapports d'impôt à faire. Et juste ça, non seulement ça prend des millions d'heures productives, et c'est vraiment des millions d'heures, parce qu'il y a des millions de déclarations déposées chaque année, fois deux, fois le temps que ça prend. Et en plus, ça coûte 800 millions de dollars annuellement en administration inutile d'avoir deux rapports au lieu d'un. Donc moi, j'avais déposé une motion demandant ou proposant qu'on ait un seul rapport d'impôt au Québec et les libéraux, un par un, ont voté contre. Et il y en a qui sont venus me voir ensuite pour me dire que l'idée était bonne, mais que leur parti avait décidé de les faire voter contre. Donc, pour revenir à votre question, je pense, oui, que dans des dossiers comme ceux-là, la ligne de parti ne s'applique absolument pas. La ligne de parti devrait se limiter à la plateforme d'un parti. C'est-à-dire que quand on se présente pour représenter une plateforme, il faut quand même qu'on soit d'accord avec et ne pas la contredire quotidiennement, sinon on n'a pas vraiment de cohérence de se présenter avec cette plateforme-là. Sauf que dans des débats ponctuels, ceux d'un rapport d'impôt unique, qui devrait en fait plaire aux fédéralistes autant qu'aux souverainistes, parce que c'est de l'efficacité tout simplement. Oui. Dans ces cas-là, qu'on ait une ligne de parti, c'est un peu ridicule, oui.
OK. Juste, Monsieur Hassan, moi, ça fait 19 ans que j'ai le droit de voter au Québec, puis c'est grâce à vous, en fait, que j'ai le goût de le faire pour la première fois. Fait que c'est certain que vous allez avoir mon vote. J'ai juste peur que, si le Parti québécois prend le pouvoir, qu'il risque de vous éclipser, en fait, qu'il risque d'éclipser les petits partis. Fait que, quels sont les plans, quels sont vos plans, en fait, dans les prochaines années pour qu'on ne vous oublie pas?
Bien, en fait, justement, je pense que les grands partis ont tout intérêt à dire, à faire peur aux gens en disant « votez pour nous, sinon ça va être l'autre que vous n'aimez plus qui va être au pouvoir ». Et ça nuit aux petits partis, parce que quand on appuie stratégiquement un des gros partis, on prive de moyens financiers et de moyens de visibilité les alternatives qui pourraient remplacer les deux éternels qui changent au pouvoir depuis 42 ans. Donc, c'est un cercle vicieux. Tant qu'on va tomber dans le chantage du vote stratégique pour appuyer un des deux gros, on va faire en sorte qu'il n'y ait que ces deux gros partis-là. Donc, Option nationale, notre plan, évidemment, c'est notre première élection qu'on va traverser là. Et ça va être le meilleur aussi pour se faire connaître, parce que les gens qui connaissent notre plateforme, ils l'aiment et en général, ils embarquent. Le défi, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui savent pas encore exactement c'est quoi Option nationale et à quoi ça correspond. Mais dans cette campagne-ci, comme on a 123 candidats partout au Québec, et c'est un record de vitesse d'ailleurs, comme je le disais, donc on va avoir des candidats partout, ça va nous permettre de nous faire connaître sur le terrain, dans l'esprit des gens aussi, dans le débat politique. Et donc, pour l'élection d'ensuite, on sera beaucoup plus prêt à faire valoir nos idées et à se faire entendre. Donc, cette élection-ci, en fait, c'est une préparation pour la suite des choses.
C'est parfait. De toute façon, je suis très actif sur mon Facebook en votre faveur, fait que, comme tout le monde.
C'est bien apprécié.
Justement, la magie des réseaux sociaux, je vois que vous avez, que votre parti et vos candidats l'ont saisi et capturé comme aucun autre parti.
Ben en fait, ça découle de la réalité que nos membres sont assez jeunes. Les trois quarts de nos membres ont moins de 35 ans, ce qui est un signe extrêmement positif pour la politique au Québec, parce que ça fait mentir deux choses, en fait, le succès d'Option nationale. Premièrement, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. On a bien réalisé que les jeunes s'intéressent à la politique quand la politique est intéressante. C'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, quand on dit que la souveraineté serait une question d'une génération passée, ben c'est faux, parce que tous ceux qui se joignent à l'Option nationale savent très bien que c'est un parti clairement souverainiste. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans, donc c'est vraiment prometteur pour la suite des choses. Et notre façon de faire de la politique, de toujours parler avec, je dirais, clarté et courage de nos positions, quels que soient les sondages, je pense que ça réintéresse les gens et ça leur redonne confiance qu'il peut y avoir des élus qui sont là pour autre chose qu'une carrière et qui sont là pour une autre attitude que de dire ce qu'il faut pour être élu, tout simplement. Donc, moi, je suis convaincu que si on fonce avec nos convictions et qu'on garde la clarté qu'on a là, un jour, les gens apprécieront cette honnêteté-là et peut-être qu'ils vont s'intéresser davantage à écouter les arguments en faveur de la souveraineté et qu'on convaincra les indécis qui manquent pour que le Québec devienne le pays qu'on pense qu'il devrait être.
Oui.
Et en conclusion, M. Hassan, Radio H2O est un média alternatif et sans censure, et j'aimerais vous donner l'opportunité de terminer avec un message que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs.
Bien, en fait, le message, c'est simplement que dans l'élection du 4 septembre qui arrive, il faut clairement voter pour le parti qui se rapproche le plus de vos convictions. Parce que si on tombe dans la menace du vote stratégique, même si je sais qu'il y a une circonstance spéciale au Québec qui fait que les gens sont vraiment, je dirais, blasés du gouvernement libéral, c'est pas en redonnant le pouvoir à l'alternance tout le temps, la même que dans les 40 dernières années, qu'on va se sortir de ce marasme politique. Parce que c'est pas vrai que les libéraux ont tout fait mal pendant 42 ans et que les péquistes ont tout fait parfaitement pendant 42 ans. C'est l'alternance elle-même qui nous a menés dans la morosité actuelle. Et il faut avoir l'audace de voter pour autre chose que cette alternance. Et le jour où les partis émergents auront accès au pouvoir, ils changeront la politique d'une bonne façon.
Effectivement. Merci beaucoup, M. Hassan, d'avoir pris le temps avec nous, puis on vous souhaite d'ailleurs les meilleures des chances, ainsi qu'à vos 123 candidats le 4 septembre prochain.
Merci beaucoup, au plaisir de se reparler.
Merci. Merci, M. Hassan.
Et merci à toi aussi, Daniel, d'avoir participé à cette entrevue avec M. Jean-Martin Hassan, chef du parti Option nationale. Donc, restez avec nous, on s'en va une courte pause et on revient tout de suite après.
L'émission du H2O Show vous est présentée en simultané sur les ondes de Radio Lower 24/7, Radio La Salle 100,1 FM et Radio H2O.